que votre cœur ne soit pas bouleversé. » Jésus, avant de quitter ses disciples et de subir sa passion, leur parle donc sur un ton d'amitié et de tendresse, « mes petits enfants ». Jésus, juste après avoir lavé les pieds de ses disciples, veut réconforter ceux qui sont, comme les disciples d'Emmaüs quelques jours plus tard, dans cette hésitation et ce désespoir. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël des Romains. Jésus va être condamné, exécuté. Ils sont découragés. Jésus donc veut déplacer l'espérance de ses disciples, car la libération qu'il apporte se situe sur un autre plan. Jésus donc réconforte ses disciples en leur annonçant qu'ils se retrouveront dans la maison du Père. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parmi vous, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi. » Jésus fait appel à la foi de ses disciples, attitude fondamentale du peuple juif pour celui qui est fidèle en tout ce qu'il fait, comme nous le rappelle le psaume de ce jour. L'espérance ne peut s'appuyer que sur la foi, et Jésus utilise par 5 fois le verbe « croire ». Ne soyez donc pas bouleversés, puisque vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Nous demandons à Dieu, dans la collecte de ce dimanche, de nous accorder la vraie liberté et la vie éternelle, puisque nous croyons au Christ. Seulement, une chose est de croire en Dieu, ce qui est acquis par les disciples, et une autre de croire en Jésus, au moment même où Jésus va être lâché par ses disciples. Jésus vient d'annoncer la trahison de Judas. Les apôtres, donc, ont en effet de la peine à identifier à la fois Jésus, d'un côté, et en même temps, cette adoration qu'il porte au Seigneur. Le Messie peut-il être Dieu lui-même? Le ciel promis aux disciples n'est en fait pas un lieu, mais un état qui témoigne de son intimité avec Dieu, de son unité avec Dieu. Et c'est pourquoi Jésus fait percevoir à ses disciples l'unité profonde qui existe entre le Père et lui. Et Jésus y insiste. « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Il le dit 2 fois. « Le Père qui demeure en moi et celui qui m'a vu a vu le Père. » Toutes ces expressions, ainsi que le verbe « connaître »,« voir »,« demeurer »,« je suis la vérité et la vie », témoignent de cette unité qui existe entre Jésus et Dieu. De même que « je suis », qui pour des oreilles juives ne peut qu'évoquer Dieu lui-même. Cependant, Jésus témoigne aussi que le Père et le Fils sont distincts, puisque Jésus dit « Je suis le chemin », sous-entendu vers le Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Autre manière de dire « Je suis le chemin ». Et dimanche dernier, Jésus, dans le discours du bon pasteur, témoignait qu'il était cette porte qui nous conduit vers le ciel, vers le Père. Oui, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce chemin, thème important dans l'Ancien Testament, rappelons-nous la traversée du désert, l'exil. Oui, Jésus est le chemin. Il est celui qui permet d'atteindre le but, le Père, non pas seulement par son enseignement, mais aussi par sa personne qui est la présence même de celui vers lequel nous allons, celui qui nous appelle aussi à l'imiter. Jésus est évidemment la vérité, puisqu'il révèle, puisqu'il est Dieu, le plan de son Père, ce plan de salut. Il révèle l'identité trinitaire de Dieu. Ainsi, l'Église ne possède pas la vérité par elle-même, mais elle possède celui qui la transmet. Jésus est aussi la vie, puisqu'il est le Dieu des vivants, celui qui était mort et ressuscité, ce pasteur qui donne la vie en abondance. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. L'identité de Jésus, c'est celle d'être fils. L'identité du chrétien, c'est de vivre comme fils du Père, puisque Jésus nous ouvre à la vie même de Dieu. Désormais, il n'y a plus de foi en Dieu sans la foi dans le Christ. C'est ce que révèle d'ailleurs tout l'Évangile. Croire en Dieu, comme je le vous dis très souvent, ce n'est pas simplement croire qu'il existe, mais qu'il peut sauver son Fils de la mort et nous sauver, me sauver. Dans l'Évangile de Jean, les réactions d'incompréhension de Thomas, de Philippe et d'autres disciples permettent de donner de nouvelles explications reçues grâce au Christ et de progresser. Rien de soi de négatif. Et il devrait être de même pour nous. Est-ce que nous nous posons des questions? Est-ce que nous recherchons ces réponses pour progresser dans cette foi et vivre de cette intimité, de cette unité avec le Christ pour être unis au Père? Donc ne nous décourageons pas si nous avons des interrogations, simplement osons les poser. La fin de l'Évangile se termine par une promesse. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Ne réduisons pas le mot « œuvre » aux actions miraculeuses. Jésus veut signifier que ceux qui croient en lui sont appelés à réaliser l'œuvre du Christ, qui est celle de la libération des hommes. Tout chrétien est donc appelé à être missionnaire de cette bonne nouvelle, de cette nouvelle de la libération de l'humanité de tout esclavage, qu'il soit physique ou moral, afin de l'amener vers le Père. N'est-ce pas le but de l'Église? Il fera même des œuvres plus grandes, parce que je pars vers le Père. Dimanche prochain, Jésus annoncera l'envoi de son Esprit. S'il part, c'est afin de pouvoir nous envoyer son Esprit, afin de rester présent parmi nous et d'agir en nous par son Esprit. Ce dont témoignent les deux lectures de ce jour. Souvenons-nous, ces quelques disciples apeurés au Cénacle, et maintenant ce sont des foules immenses qui viennent vers les apôtres, se convertissent et témoignent de Dieu. Cette première lecture, justement, témoigne de l'augmentation de l'Église et qui appelle justement à choisir sept membres parmi ceux qui sont justement remplis par l'Esprit de sagesse et l'Esprit Saint pour aider les apôtres. Du fait de l'existence de deux groupes, à la fois les Hébreux et les Hellénistes. Cette lecture témoigne ainsi de l'ouverture de l'Église à la culture grecque. Un petit point, notons que ces personnes choisies ne sont pas appelées diacres. Seul Paul l'utilisera dans sa lettre aux Philippiens et c'est saint Irénée qui verra en ce texte l'institution du diaconat. Autre point important dans cette lecture, c'est le fait que les apôtres imposent les mains. Ce signe de transmission était courant dans toutes les religions et ainsi dans l'Ancien Testament, souvenons-nous de Moïse qui impose les mains à Josué. Ce signe important pourquoi? Parce qu'il témoigne que ceux qui ont été choisis ne sont pas là simplement pour s'occuper de la table, des choses pratiques. Non, le diacre est appelé à la prédication. Et souvenez-vous, en liturgie, c'est le diacre qui lit l'Évangile, qui lit la prière universelle. Dans cette deuxième lecture, cette fois-ci, c'est Pierre qui rappelle combien l'Église est bâtie sur une pierre vivante qui est le Seigneur. Les chrétiens, donc, sont aussi ces pierres qui sont appelées à construire peu à peu l'édifice sans crainte. Dans l'assurance, comme nous le rappelait le Seigneur à la fin de l'Évangile, que par son Esprit Saint, tout devient possible et que peut se réaliser ainsi le salut promis par le Seigneur. Prions donc en ce jour afin que cet Esprit qui nous habite nous donne de suivre le Christ, afin que tous ensemble, nous puissions le retrouver au ciel et chanter les louanges du Seigneur, puisque les noms, les demeures sont nombreuses. Les places ne doivent pas manquer. Tout dépend simplement de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.